Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Ombeline de la Portalière.
Bonjour.
Alors, je vous ai présenté lors du premier entretien avec plusieurs casquettes. Vous êtes mère de 4 enfants. Vous avez été durant 10 ans aumônier d'hôpital et vous nous avez partagé cette riche expérience. Vous avez eu une formation, une casquette de coach que vous avez encore et de dame de compagnie. Et puis, on vous découvre hein, jusqu'à vendredi. Le cœur de notre entretien du jour va porter sur cette étape, hein, un temps de pause qui va durer 2 ans. Vous terminez vos 10 ans de mission d'aumônier d'hôpital, donc à l'écoute des personnes malades. Vous terminez épuisé. Et vous avez besoin de vous reconnecter peut-être à vous-même, de faire silence. Et cet arrêt va durer 2 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos résolutions? Que vivez-vous durant ces 2 ans?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme quand j'ai pris cette décision d'arrêter d'être aumônier, et j'ai été rencontrer aussi le diocèse de Lyon et je leur ai demandé s'il y avait des postes pour pouvoir accompagner des gens. Et il n'y en avait pas. Donc j'avais fait un bilan aussi de compétences et j'avais vraiment envie de pouvoir accompagner les personnes, mais individuellement. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et donc je me suis arrêtée de travailler.
Et c'était la sagesse hein, qui parlait, puisque vous terminiez vos 10 ans épuisés.
Oui. Bah oui,
c'est-à-dire comment repartir dans une activité missionnaire.
Voilà. Et puis c'était en ayant vraiment vu que ce que j'aimais, c'était l'écoute et l'accompagnement. Voilà. Et peut-être ayant besoin aussi de sortir de l'institution. Voilà. Parce que j'ai un côté... peut-être que je suis un peu rebelle ou... J'ai besoin aussi...
Besoin de vous rebeller par rapport à l'institution, de l'Église.
Voilà.
Prendre un peu de recul.
Prendre un peu de recul.
Une respiration.
Et puis surtout aussi de faire, d'avoir mon propre agenda aussi. C'était important pour moi, cette liberté aussi d'action. Et donc j'ai demandé cette rupture conventionnelle et je me suis dit, je vais me former comme coach. Voilà, parce que j'avais entendu des personnes qui avaient fait cette formation. Donc j'ai eu en effet ces 2 ans. Qui m'ont permis de me former comme coach déjà. Et en même temps, je me suis séparée de mon mari après 28 ans de mariage. Donc il y a eu beaucoup de changements dans ma vie et j'ai dû quitter aussi ma maison. Donc je me suis retrouvée dans un lieu où différent physiquement et je me suis reformée un nouveau métier. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de chamboulements et cette pause affective. Cette pause, en fait, m'a permis de me reconnecter aussi à qui je suis, en fait. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui a été important dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant, avec ma réalité de vie, hein, parce que j'ai mes 4 enfants, j'ai toute mon histoire que j'accepte. J'ai été beaucoup accompagnée.
Vous parlez aussi, nous avons parlé de cet état aussi, posture de sauveuse. Vous venez de nommer aussi cette séparation, ce divorce après 28 ans de mariage. Vous aviez aussi dans votre vie d'épouse une posture de sauveuse.
Oui, je pense que j'ai eu... dans un couple, on est deux. Et je pense que même si avec mon mari, on a été beaucoup accompagnés, je pense que j'avais... toujours pensé qu'un jour, je pourrais être heureuse et réussir ce mariage. Et en fait, on est deux dans un couple. Et donc, et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible pour moi, en tous les cas. Donc, j'ai accepté de passer à autre chose parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas moi. En fait, que c'est que le Christ qui sauve.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire et éviter pour être dans cette position aussi de sauveur ou sauveuse? Pour ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui et cette semaine dans Des clés pour vivre, quelle est la bonne clé pour ne pas y rentrer et jamais dans cette attitude de sauveur ou sauveuse.
Bah, le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est quand vous dites quelle est la clé, en fait, comment est-ce que...
Sont les mauvaises attitudes hein.
En fait, la vie fait qu'on s'en, on s'en rend compte, mais quand on est un sauveur, quand on réalise un jour par une épreuve de vie, ou parce que les autres vous le disent, ou parce qu'on le travaille en thérapie, qu'on est un sauveur, la clé, c'est de pouvoir se dire, quand on veut aider quelqu'un, si on veut aider quelqu'un, c'est de se dire de quoi toi, mon ami, as-tu besoin ? Donc partir du besoin de l'autre. Parce que le sauveur, il n'écoute pas les besoins de l'autre. Il se dit, moi je sais pour l'autre ce qui est bon pour lui. Et là, il se plante complètement. Et moi, j'ai vraiment réalisé ça. Et mon parcours de... En fait, ma formation de coach m'a énormément aidé pour ça. Parce que rien que par ma posture, c'est-à-dire que le coach, il est là pour aider... Peut-être aider, parce qu'il n'aide pas toujours, mais peut-être aider à ce que la personne trouve en elle ses propres solutions. Donc le coach, il pose des questions, mais ce n'est pas lui qui donne les solutions. Donc jamais. Voilà. Donc moi, avec ma posture de sauveuse, eh ben, vous imaginez comme cette formation de coach m'a déplacée. Et à la fois, je pense que c'était une aspiration que j'avais en moi depuis très longtemps. C'est-à-dire que mes solutions, en fait, j'ai toujours eu des personnes qui m'ont dit ce qu'il fallait que je fasse. Donc, alors que j'avais pas exploité à l'intérieur de moi, c'est quoi, moi, mes propres solutions ? Je les connaissais pas, mes ressources, vraiment, vu la vie que j'avais eue. Après, voilà, ça fait partie de ma vie. Mais donc, le fait de me former comme coach et de réaliser que quand on essaye d'accompagner quelqu'un, c'est... De le questionner et de l'aider à trouver ses propres ressources, mais moi, ça a été lumineux.
Au fond, cette formation de coach a été très salutaire dans votre parcours
très,
de femme.
Très, vraiment. Et je me suis aussi rendu compte, donc, de toutes les erreurs, entre guillemets, ou des écueils dans lesquels on peut tomber quand on est un sauveur comme moi. Donc, maintenant,
très
aujourd'hui...
Très concrètement, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Vous qui avez été pendant, puisque vous nous livrez un peu votre propre expérience, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter quand on reconnaît un petit peu cet état de sauveur ou sauveuse ?
Eh bien déjà, donc, toujours demander à l'autre de quoi il a besoin, et l'aider, et pouvoir déjà aussi bien communiquer. Donc la communication, elle est indispensable, et pas penser qu'on sait à la place de l'autre ce qui est bon pour lui. D'imaginer les besoins de l'autre sans lui en parler. Donc parce que là, on tombe vraiment dans des pièges. Et il y a aussi beaucoup, parce qu'en fait, le sauveur, il est... Moi, je me suis rendu compte que j'étais très orgueilleuse. Très orgueilleuse. Alors que je me pensais humble. Mais non, pas du tout. Parce qu'en fait... le fait de penser qu'on va aider l'autre à s'en sortir, que grâce à moi, la personne va aller mieux, parce que je vais l'écouter, parce que je vais faire des choses pour elle, etc. Mais en fait, c'est très, très orgueilleux. Donc moi, l'évangile qui me parle le plus, et je l'ai réalisé vraiment il n'y a pas longtemps, et j'essaye de rester là-dessus, que veux-tu que je fasse pour toi ? Quand Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc moi, ma posture de sauveuse, elle revient tout le temps, je peux vous dire. Parce qu'elle est là en moi, gravée depuis ma naissance. Donc j'ai toujours derrière la tête cette idée de, même quand j'accompagne des gens, en fait, c'est ça qui est bon pour eux. Mais Omblin, il faut que tu leur dises ça. Eh bien non, je repense et je me dis, et je pose la question, qu'est-ce qui est bon pour vous ? De quoi vous avez besoin ? Mais je peux vous dire que, pour sortir de cette posture-là, eh ben, j'en aurais peut-être pour toute ma vie. Parce que c'est très long. C'est très, très long. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Et là, aujourd'hui, j'en ai conscience.
Alors, vous avez parlé de l'orgueil. On va poursuivre, si vous voulez, si vous voulez bien, Ambeline de la Portalière, ces échanges dès demain jusqu'à la fin de la semaine et peut-être développer un peu plus pour en sortir de cette... et puis, c'est toute une vie. Hein. Vous parlez d'un parcours, vous parlez de l'orgueil.
Ouais.
Pour acquérir cette vertu aussi de l'humilité, il faut aussi redire oui chaque jour. Et c'est le fiat aussi de la Vierge Marie.
Hein. Ouais. Ouais.
Beau modèle aussi d'humilité. Beau modèle aussi d'écoute.
Mais oui.
D'effacement, au fond.
Ouais.
Alors, merci pour cet échange du jour, Ambeline de la Portalière. Hein, les quelques clés aussi qui peuvent faire un bout de chemin chez chacun et chacune d'entre nous. Et je vous dis à demain.
À demain.
Merci.